lettres aux comités locaux, au soutien du mouvement et à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le mouvement contre l'aéroport et son monde.
15 janvier 2018.
On assiste ces dernières semaines à un déluge de déclarations médiatiques autour de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et de son avenir. Aéroport ou pas, expulsion ou pas, nouveau Larzac ou pas, blablabla. Autant dire qu'on ne s'y retrouve pas forcément, voire pas du tout, voire au contraire. Quelques retours nous portent à croire que c'est pas toujours très clair pour des membres des comités locaux, les soutiens et les sympathisantes, et surtout celles qui sont un peu loin. C'est à vous qu'on adresse cette lettre, parce qu'on a envie d'expliquer ce qu'on comprend de la situation et aussi de porter une autre voix que celles qui se font le plus entendre. Ces quelques habitantes occupantes de différents lieux de la ZAD qui n'ont pas toujours les mêmes positions, mais se rejoignent souvent sur la volonté que la ZAD conserve une certaine radicalité qui ne soit pas de façade, en restant attachée à ce que chacune puisse trouver sa place dans ce qui se vit ici.
Où on en est ? Durant l'année qui vient de s'écouler, les relations entre les différentes composantes du mouvement contre l'aéroport et au sein des occupants et occupantes ne se sont pas simplifiées. L'heure était plutôt à la crispation, sur fond d'incompréhension mutuelle et ou de désaccords politiques. Certaines et certains continuent néanmoins à maintenir et créer des ponts entre ces réalités qui se frottent et se heurtent. C'est plus que compliqué et en même temps passionnant. On ne les changerait pour rien au monde avec une vie bien rangée. Mais ça nous pose beaucoup de questions qu'on aimerait partager, et c'est difficile de raconter tout ça sans rentrer dans les détails. Même si ces frottements ne sont pas nouveaux, la perspective de l'abandon de l'aéroport que semble ouvrir le rapport de la médiation met une pression supplémentaire autour de ces embrouilles. Pourtant, l'enjeu de penser ensemble l'avenir de la zone reste fondamental pour beaucoup. Les structures d'organisation du mouvement ont aussi évolué, avec deux transformations principales. Première transformation. Il y a quelques mois a été créée une assemblée des usages, suite à des discussions autour de l'avenir des terres. Des personnes de différentes composantes, comités, associations, y participent tous les mois. Elle s'est donné des objectifs ambitieux. D'une part, discuter, gérer au présent l'usage des espaces communs sur zone, sur la base des 6 points, les différentes pratiques qui existent et les conflits qui peuvent éventuellement en découler. D'autre part, penser l'avenir de la ZAD après l'abandon du projet. En son sein, un fonctionnement par commission s'est mis en place autour de différents thèmes. Ces commissions travaillent sur des questions plus ou moins précises, font remonter leurs travaux sous forme de propositions à l'Assemblée des usages. Les composantes en discutent ensuite en interne, puis rapportent leurs accords ou leurs contre-propositions à l'Assemblée des usages suivante pour qu'une décision y soit prise. Ce nouveau fonctionnement répond aux attentes de certains et certaines qui le considèrent comme plus efficace et à une certaine forme de fatigue, lassitude, liée aux difficultés d'avancer ensemble. On voudrait essayer de ne pas retomber dans le même travers qu'ailleurs, en termes de confiscation de la parole et de séparation des décisions de celles et ceux qu'elles concernent. Bref, de prise de pouvoir. Et c'est un pari difficile à tenir. Réfléchir et décider ensemble demande du temps, et donc aussi une capacité à s'extraire de l'agenda imposé par l'État. Pour certains et certaines d'entre nous, la diversité des paroles des occupants et des occupantes peine déjà à s'exprimer en AG du mouvement, et l'AG des usages ne règle pas ce problème. Pour d'autres, ça semble quand même important d'essayer cette forme au vu des enjeux, tout en gardant ces questions en tête. Deuxième transformation. Par ailleurs, il s'est aussi passé des choses au sein du mouvement d'occupation. La réunion du jeudi était jusqu'ici le seul espace vraiment commun de discussion des occupants et occupantes. Mais, entre la place prise par l'organisation du quotidien et le temps nécessaire à trouver des accords à la mesure de notre diversité, ça devenait difficile de discuter des sujets vraiment complexes. Des occupants et occupantes ont donc décidé de créer une AG des occupants et occupantes mensuelle pour poursuivre ces débats de fond.
C'est quoi cette histoire de négociation ? Ces derniers temps, on entend souvent parler de la possibilité de négocier entre l'État et le mouvement anti-aéroport. Pas mal de monde semble se poser des questions à ce sujet. Il a été décidé dans le cadre de l'Assemblée des usages de la formation d'une délégation intercomposante, dont la mission serait de dialoguer avec l'État sur le devenir de la ZAD sans aéroport. Pour nombre d'entre nous, il semble important de rester unis face à l'État, alors que celui-ci fait tout pour nous diviser entre bons, bonnes et méchants, méchantes, intégrables et réprimables. C'est pourquoi, Après des débats difficiles, il a été décidé que les occupants participeraient à cette délégation, notamment parce que les autres composantes vont de toute façon y aller. Beaucoup parmi nous ne sont pas d'accord ou n'en attendent pas grand-chose, parce que face à l'État, on ne gagne que ce qu'on peut prendre et tenir par la lutte, pas ce qu'il veut bien nous concéder. Mais dans un moment aussi critique, nous avons certainement intérêt à voir et savoir ce qui nous lie et nous a liés pendant ces années. C'est au-delà de la lutte contre l'aéroport que nous espérons trouver cette cohésion parmi les occupants, occupantes et entre composantes du mouvement. Nous ne voulons pas croire qu'à ce moment clé, que certains, certaines appellent victoire et d'autres abandon de l'aéroport, notre mouvement se déliterait et que l'on bataillerait chacun chacune pour sa part du gâteau, dont la cerise serait l'accord bienveillant de l'État. Nous souhaitons au contraire signifier à l'État, ainsi qu'à CELE que notre mouvement effraie, qu'ensemble, nous ne sommes pas seulement des obstacles à leur projet, mais des entraves à leur logique, avec ou sans aéroport. Que par le biais des négos, l'État ait une prise sur ce qu'il se passera ici, c'est un fait. Mais ça ne signifie pas pour autant que nous lui ouvrons grand les portes de ce que nous avons construit, ensemble et sans lui. Il est, et restera, pour nous, un adversaire politique, et nous continuerons à construire nos réalités.
Dénonciation des fantasmes des médias. Depuis le rendu de la médiation, les médias se déchaînent à notre sujet. LCI, titre 1 de ses reportages, le 4 janvier. Zadistes, des terroristes comme les autres ? La démesure n'a plus de limite. On mélange et on confond tout pour créer une belle grosse image de peur. Parce que la peur, ça fait vendre du clic ou du papier. Et ça fait voter toujours un peu plus à droite aux prochaines élections. Les médias, en tant que deuxième peau bien épaisse d'un système déjà bien rodé, ont d'ores et déjà lancé l'offensive et attaquent de toutes parts en jouant de tous les outils à leur disposition. Mensonges, mauvaise foi, désinformation, informations fragmentées et décontextualisées, caricatures, photos volées, suppositions, préjugés. Des classiques, et surtout de quoi engraisser le buzz et le sensationnalisme. La plupart des infos sorties sur NDDL sont soit des communiqués non sourcés de la gendarmerie, soit de la manipulation grossière. Pour l'État et ses représentants, inciter des éditorialistes sans aucune connaissance des luttes sociales à assimiler les mouvements subversifs à des terroristes est un stratagème habituel de désignation d'ennemis intérieurs. Une diversion bien pratique en plein chantier de casse sociale qui lui permet en prime d'utiliser un arsenal judiciaire visant à surveiller, entraver ou museler les militants et militantes. Bref, de légitimer sa propre violence. En effet, comme on a pu le voir, la liberté d'expression a pour frontière les notions floues de terrorisme. Le glissement sémantique allant de militants convaincus vers terroristes en passant par radical et radicaux est particulièrement pernicieux. Même si cette diabolisation ne repose sur aucun fondement juridique, elle permet de faciliter grandement la répression et la surveillance des mouvements contestataires. Alors, oui, ils tenteront ce qu'ils peuvent pour affaiblir ce mouvement. Manipulation d'opinion, opérations de police et barbouzeries diverses. Mais surtout, ils chercheront à exacerber nos différences pour mieux nous diviser. Par ailleurs, lorsque d'autres rédacteurs et rédactrices dressent un portrait lisse, intégrable et apolitique, nous ne les remercions pas plus que celui qui nous criminalise.
Rapport à l'évacuation, aux expulsions. La ZAD n'a donc rien à voir avec l'image de camps retranchés de dangereux décérébrés véhiculés par les médias afin d'occulter le fond politique de ce qui est inventé ici au quotidien. Pour autant, la vie sur la zone n'est pas non plus une carte postale de gentils néo-ruraux en goguette. Comme partout, il y a des conflits d'usage, des embrouilles, des dérapages, mais ici, nous tentons de régler ces questions collectivement, sans recours à des flics, à des juges, à des matons ou à des psys. Nous y mettons beaucoup d'énergie parce que nous croyons que c'est possible. Ce que certains ou certaines appellent « zone de non-droit » est pour nous une zone où nos fonctionnements sont pensés, discutés, questionnés quotidiennement et soumis à l'épreuve de différentes réalités. C'est leur loi qui punit les pauvres et protège les riches. Leur loi qui met hors la loi, réprime la solidarité, les personnes sans papier, l'habitat libre et tant d'autres. Ce qu'ils appellent non-droit, nous l'appelons hors-norme. Et ce n'est pas plus la légalité que l'illégalité qui nous semble le critère pour juger de la justesse de nos actes. L'invention d'un modèle social en constante expérimentation, c'est parfois chaotique et forcément imparfait, mais c'est une tentative légitime, même si elle pousse du coude les cadres et les normes. Et cette expérience collective, vécue, soutenue et rejointe par des milliers de personnes depuis des dizaines d'années, donne de l'espoir et du sens dans une époque où le capitalisme ravage ce qui reste de respirable en ce monde. C'est pourquoi nous serons nombreuses à défendre la ZAD en cas d'intervention policière, ciblée ou totale, comme nous l'avons fait en 2012. Nous savons que, comme alors, la lutte ne se jouera pas uniquement dans le périmètre de la ZAD, mais aussi au sein de toute la constellation de liens, de luttes amies et de soutien, présents pour certaines depuis des années. Et malgré l'asymétrie du rapport de force annoncé, 3000 CRS, 6000 CRS, nous résisterons au mieux avec l'ensemble du prisme de nos modes d'action. Car notre force est toujours cette diversité complémentaire qui fait enrager ceux qui veulent séparer les bons résistants et les mauvais. N'oublions jamais que la violence vient et viendra d'abord du système et de l'État qui en définit le niveau. Le gouvernement prépare ainsi l'opinion pour une évacuation d'une extrême violence, allant peut-être jusqu'au meurtre, comme à Sivens, avec l'aide des médias qui rabâchent jusqu'à la nausée les propos gendarmesques sur la possibilité d'un mort.
Ce qu'on veut, défendre la ZAD pour lutter contre le monde de l'aéroport. Alors que l'État laisse entendre qu'il pourrait abandonner le projet, des personnes plus ou moins éloignées de notre réalité dévoilent dans les médias leur projet pour la ZAD. Nous ne les avons pas attendus pour penser notre avenir. L'État et le système qu'il défend nous emmènent droit dans le mur. Et plutôt que de contribuer au désastre en cours, nous nous sentons légitimes à essayer ici de vivre différemment. Comme convenu avec l'ensemble du mouvement, nous voulons un gel de la situation foncière une fois les historiques revenus dans leurs droits, afin de créer une entité issue du mouvement qui prendra en charge les communs. On peut souvent lire ou entendre qu'une ZAD d'après l'abandon reviendrait peu ou prou à sa vocation uniquement agricole d'avant le projet. Si cette lutte fut, dès ses débuts, une lutte pour la défense des terres, elle s'est depuis élargie, notamment avec l'arrivée des occupantes. Des gens vivent et luttent ici, y ont développé d'autres pratiques depuis des années et entendent bien continuer. N'en déplaise à ceux qui veulent nous aménager en zone pacifiée de commerce équitable, nous souhaitons continuer à produire et ou à vivre hors cadre et hors normes. Nous voulons aussi continuer à inventer d'autres manières de partager et d'échanger en dehors du seul lien marchand, pour être moins dépendantes de l'État et du marché, mais aussi pour nos voisins et voisines, et pour soutenir d'autres luttes. Nous désirons aussi continuer à définir nos propres règles et gérer nos conflits. On n'a pas de réponse prémâchée sur comment vivre autrement dans ce monde, sur les contradictions qui nous traversent et les compromis qu'on est prête ou pas à accepter. Nous voulons prendre soin ensemble des espaces communs, les routes, espaces boisés, prairies, lieux de réunion. Travailler à renforcer les liens de confiance qui nous unissent déjà à nos voisines, à nos voisins, et à déconstruire les préjugés et les fantasmes qui nous séparent de beaucoup d'entre elles et eux, notamment via l'organisation d'infotours dans les bourgs alentours et la participation à la dynamisation du bourg voisin. Pour autant, nous ne voulons pas d'une ZAD où seuls pourraient rester celles et ceux qui présenteraient bien devant les journalistes, qui accepteraient de prendre un statut légal, ou pourraient ou voudraient bien payer des factures. En d'autres termes, celles et ceux qui ne feraient pas tâche sur la photo de famille. Nous voulons que la ZAD reste diverse et surprenante, qui cohabite des gens aux pratiques variées parce qu'attachées à des idées politiques différentes. Nous avons défendu cette zone ensemble. Nous continuerons à l'habiter ensemble. Nous voulons donc que tout le monde puisse rester sans exception. Certains, certaines partiront peut-être, d'autres arriveront, d'autres ne feront que passer, comme ça a toujours été le cas. Mais qu'il n'y ait ni expulsion, ni aucune forme d'intervention policière visant à réprimer certains, certaines d'entre nous. Nous pensons aussi à toutes celles et tous ceux qui ont déjà subi la répression. Nous souhaitons l'amnistie pour les personnes condamnées dans le cadre de la lutte anti-aéroport. Nous sommes prêtes et déterminées à lutter pour. Enfin, et peut-être surtout, nous souhaitons que la ZAD reste une zone de lutte. Ensemble, nous avons sorti ces terres de leur destruction programmée et avons mis en place des formes de vie qui nous correspondent, plus collectives et autonomes, et ne souhaitons pas nous arrêter là. Nous luttons contre l'aéroport et son monde. Même si le projet est abandonné, son monde continuera d'exister et nous continuerons de le combattre de toutes les manières qui nous sembleront pertinentes. Nous continuerons à lutter contre les infrastructures et les projets d'aménagement du territoire, contre les politiques migratoires et le racisme d'État, aux côtés de celles et ceux qui subissent, plus que nous, la violence systémique. Nous continuerons à prendre la rue, à occuper des bâtiments et des places publiques avec les travailleurs, les chômeuses, les étudiantes, les précaires, que nous sommes parfois, contre les politiques capitalistes qui nous mettent un peu plus à la merci de l'économie. Nous continuerons aussi le travail de déconstruction des dominations qui traversent notre société. Sexisme, racisme, spécisme, agisme. En les visibilisant et en les combattant, sur la ZAD et en dehors. Alors que le mouvement envisage le triste jeu des négociations avec l'État, nous espérons réussir à préserver ensemble les espaces de liberté qui font de la ZAD une zone un peu plus respirable que le reste du monde. Ce pari, nous ne sommes pas du tout sûrs de le gagner, mais on préfère tenter plutôt que se laisser diviser.
D281. Quant à la portion de la D281 qui traverse la ZAD, la dite « route des chicanes », elle est à nouveau au centre de l'attention. Des voix s'élèvent dans les médias, venant parfois du mouvement, pour réclamer son ouverture, voire sa libération. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'existe pas sur la ZAD de position consensuelle à son sujet. Depuis sa renaissance, lors de l'opération César, elle a été le théâtre des conflits politiques, d'usage et ou de voisinage, et nous rencontrons des difficultés pour trouver des solutions qui conviennent à tous et toutes. Habitantes, occupantes, riverains, riverains, riveraines et autres usagers, usagères, ou autres composantes du mouvement. Nous n'y avons pas les mêmes évidences, ni les mêmes intérêts. Fermée par les autorités depuis 2013, la route est à la fois habitée en plusieurs lieux de manière plus ou moins stable, traversée de nombreux chemins quotidiens et circulante aux véhicules légers et tracteurs. Elle voit donc coexister plusieurs pratiques et enjeux. S'y croisent celles qui y vivent, celles qui y voient une situation de rencontre, même muette, entre des mondes, celles qui l'empruntent quotidiennement à pied, en vélo, à quatre pattes, à côté de véhicules dont la vitesse est réduite, celles qui l'empruntent pour des raisons pratiques, de travail ou d'accès rapide. On sait aussi que certains et certaines n'osent pas au plus la prendre, excédés ou effrayés par des histoires parfois avérées, relevant parfois de la rumeur ou de l'exagération. Il est clair qu'il y a eu sur cette route des actes et comportements abusifs, auxquels les occupants et occupantes n'ont pas toujours su réagir de manière adéquate. Mais nous ne pouvons pas réduire le débat ou les conflits autour de la route à ces actes.
Au-delà de nos difficultés à trouver une forme pérenne d'existence à cette route vivante, ce qui dérange, c'est aussi l'idée d'un espace commun dont la gestion autonome échappe au lieu de pouvoir. De nombreuses agglomérations sont parsemées de ralentisseurs, de zones où la circulation est limitée ou réservée aux riverains, voire totalement privatisée. Pourtant, rarement l'on y voit tant d'ardeur à contester l'existence de ces dispositions. La défense et la protection face à l'État ne sont plus, depuis longtemps, les seuls enjeux de l'occupation de cette route. Nous savons bien qu'une barricade n'arrête pas un bulldozer, protégé par des flics, pas longtemps en tout cas. Pour autant, notre attachement à cette route ne relève pas d'un folklore barricadier, à balayer d'un revers de main ou à muséifier. Même si des fois on aime bien cette carcasse de voiture rouillée taguée révolte ou s'autogère une plate-bande sauvage. Nous accordons, au contraire, une importance proprement politique au devenir de cet espace et de ce qui s'y joue. La remise en cause de la vitesse, de la place de la voiture dans nos vies et sur le territoire. Enfin, d'une certaine vision fonctionnelle de l'espace qui en décide l'usage d'en haut plutôt que sur le terrain. Ces questions seront toujours d'actualité après une hypothétique fin de la menace policière. Pour nombre d'entre nous, cette route est aussi une part, petite mais vitale, de cette lutte de l'imaginaire. Voilà pourquoi, si cette route devenait une simple route, au détriment de tous les usages qui s'y sont créés depuis 5 ans, une partie du mouvement le vivrait comme le début de la normalisation de la zone. Nous savons que faire coexister des réalités si multiples demande de l'implication, de l'énergie et des actes marquants. Nous nous sommes déjà réunis afin de se poser cette question collectivement et continuerons à le faire. On considère souvent ici les conflits d'usage et politique comme l'un des sels de cet espace. Et si l'excès de sel nous fait tirer la langue, un plat fade ne nous tente pas.
La suite. Vous le savez sûrement, quelle que soit la décision du gouvernement, nous vous invitons à nous rejoindre sur la ZAD le 10 février pour fêter cette victoire si elle est actée, ou la hâter le cas contraire. Nous vous attendons nombreuses pour préparer la suite, en veillant à laisser de la place à ce qui nous a rendus forts et fortes jusque-là. La coexistence dans un même combat, de nombreuses cultures de lutte, se complétant mutuellement. Cette diversité qui ne laisse pas d'angle d'attaque au gouvernement.
Les liens qui tissent cette lutte forment une trame qui ne saurait disparaître avec la fin de la zone à défendre. Soyons fortes et forts de ce passé commun pour construire la suite de ce récit, pour continuer nos recherches d'un monde plus juste et réfléchi plus communément, pour préserver ces connexions qui ont tellement impacté nos vies et se multiplieront encore. La ZAD vivra, pas parce que nous sommes une cinquantaine d'irréductibles ultra-violents, mais parce que nous sommes des milliers à avoir un attachement fort à cet espace, pour des milliers de raisons. Et ça, ça ne changera pas avec un abandon. Comme peuvent l'être Bure, la Notave ou Roibon, ce projet d'aéroport n'est qu'un symptôme d'une société en crise profonde, à la fois économique, politique et sociale. Des symptômes auxquels d'autres tentent de répondre par l'accueil de réfugiés, la recherche d'une agriculture respectueuse du vivant ou le féminisme radical, entre mille autres luttes que nous devrions citer ici. Ce monde est empreint d'oppression et d'inégalité. Et si l'idée n'est pas de le jeter complètement à la poubelle, elle est au moins d'y provoquer des changements profonds, radicaux, c'est-à-dire qui s'attachent à la racine. Peu importe les préjugés que fait naître ce mot, il y a en nous de radical tout ce qui cherche un changement profond dans quelque chose. Nous sommes tous et toutes des radicaux.
En ça, notre lutte ne s'arrête pas aux portes d'un aéroport abandonné. Elle se poursuit au-delà, et tant que des bétonneurs sans scrupules continueront à piller des ressources et des espaces, nous continuerons d'entraver leurs machines. Sans pour autant que l'on ait envie de quitter cette zone, qui dès lors que son avenir sera acquis au mouvement anti-aéroport, pourra constituer une base arrière solide pour ouvrir d'autres brèches et faire exister de la solidarité là où l'État et le marché nous séparent et nous isolent.
Bien sûr, l'abandon du projet d'aéroport, s'il se confirme, sonnera comme une victoire. Cela enverra un message à toutes les autres personnes et collectifs en lutte. Les États et les multinationales ne sont pas tout-puissants. Nous n'avons pas à accepter et subir tous leurs désirs. Nous pouvons dire non, nous organiser pour les faire reculer. Nos luttes peuvent être victorieuses.
Néanmoins, nous sommes beaucoup sur cette zone à considérer que l'abandon de l'aéroport ne constitue qu'une victoire partielle. Alors que nous tentons d'empêcher la construction d'un aéroport, plus de 400 autres sont en projet ou en construction dans le monde. Alors que nous déclarons pas d'aéroport ni ici ni ailleurs, celui de Nantes Atlantique sera tout de même agrandi, au mépris de toute considération pour le changement climatique et ses effets déjà bien perceptibles. Certes, le projet est sur le point d'être enterré, mais le monde qui va avec est, lui, encore bien vivant et va continuer son œuvre prédatrice. Il serait dommage que la formidable force collective qui s'est constituée avec des centaines de comités et des milliers d'individus impliqués dans cette lutte s'éteigne. On aura encore à lutter ensemble pour préserver et arracher des marges de liberté ici et ailleurs. Car des zones à défendre, il en existe des milliers. Quelques occupants et occupantes de la ZAD.